Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Pré-Shot, le podcast du championnat national ESL. Je suis Balter et comme vous l'aurez deviné, dans ce podcast on parle d'e-sport, de l'e-sport bleu-blanc-rouge qui commence dans l'Hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans Pré-Shot, on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de la scène française, qu'ils soient joueurs, casteurs ou bien coach, en gardant toujours en tête de repérer les futures pépites, parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Achille, joueur pro pour SK Gaming sur le jeu Brawl Stars. On va discuter de ses premiers pas dans l'e-sport, de sa saison en ECN, de comment il concilie vie de joueur pro et études d'ingénieur, et de pourquoi les joueurs PC ont une réaction de boomer quand on leur parle de compétition sur mobile. Allons-y, il nous attend. Salut Achille, tu vas bien ?
Ça va nickel, et toi ?
Bah écoute, ça va. Je suis vraiment content de t'avoir avec moi pour ce deuxième épisode de Pré-Shot, parce que ton profil tranche vraiment avec celui d'Apex que j'ai reçu la semaine dernière. Déjà, t'es plus jeune, parce que t'as que 21 ans, entre guillemets,
ouais.
Et surtout parce que tu joues à Brawl Stars. Comparé à CSGO, c'est vraiment des univers très différents. Alors je propose qu'on commence par apprendre un peu à te connaître, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont étrangères à la scène des jeux mobiles. Alors ces personnes-là, sachez un truc, c'est que Achille, c'est tout simplement le top mondial du jeu et qu'il est capitaine de l'équipe de France. Donc en fait, c'est un peu le Hugo Lloris de Brawl Stars. Ça te va ça comme comparaison?
C'est marrant, bah on me l'a jamais faite, mais vas-y, je la prends, sympa.
Il y a pire comme comparaison, je pense. Du coup, en fait, je vais commencer par essayer de comprendre un peu comment t'en es arrivé là. Et déjà, la base, c'est quand est-ce que t'as découvert Brawl Stars? Quand est-ce que t'as commencé à jouer à Brawl Stars?
Alors, bah, Brawl Stars, c'est un jeu Supercell. Supercell, c'est l'éditeur. Et ce qui s'est passé pour beaucoup de joueurs, en fait, de Brawl Stars, c'est que, à la base, ils étaient sur Clash Royale, donc un autre jeu de Supercell. Et quand il y a eu l'annonce de Brawl Stars, il y en a beaucoup qui ont migré sur le jeu. Donc, en fait, depuis les premiers instants de la bêta, je suis sur Brawl Stars. Dès le début, j'ai migré de Clash Royale à Brawl Stars.
Et tu jouais beaucoup à Clash Royale? T'avais un niveau compétitif ou c'était juste comme ça, casual?
Non, je dirais pas compétitif. Non, je jouais pas mal, mais sur la fin, en fait, au moment où Brawl Stars est sorti, c'est vraiment le moment où je relâchais beaucoup Clash Royale, je jouais quasiment plus. Donc ça m'a donné un nouveau coup de souffle. Ça fait du bien, quoi, de changer de jeu. Donc c'était un plaisir pour moi de changer de jeu, d'arriver sur Brawl Stars. J'ai tout de suite accroché. J'ai rencontré des gens pour jouer. J'ai joué beaucoup avec eux au début. Après, ils sont partis. Moi, je suis resté. Et j'ai fait mon chemin, quoi.
Ouais, typique. Tu commences avec des potes. Et puis au final, toi, tu tryhardes un peu plus. T'es meilleur que les autres. Et c'est toi qui finis par devenir professionnel. Si tu peux juste résumer le concept de Brawl Stars en une phrase comme ça, ça serait... Comment t'expliquerais Brawl Stars à des gens qui n'ont jamais joué?
Comment je pourrais t'expliquer ça? Bah, c'est en termes de gameplay pur, c'est assez basique. Hein. Chaque personne a un personnage. T'incarnes un personnage, t'as un contrôle pour le déplacer, un contrôle pour tirer, et dans le jeu t'as différents modes de jeu, donc soit du 3v3, soit du 2v2v2 5 fois, soit du 1v1, donc en mode Battle Royale, mais le but c'est de faire des parties, c'est des parties assez courtes, donc ça dépasse pas les 3-4 minutes, et après bah tu sais, il y a un système de trophées, tu peux monter dans le ranking, il y a des compétitions, il y a plein de choses.
Classique ça, surtout des jeux Supercell qu'on connaît très bien. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, beaucoup dans Brawl Stars, plus que, peut-être que dans Clash Royale ou des anciens jeux de Supercell?
Bah, c'est justement l'aspect team, c'est le côté teamplay. Hein. Comme je te dis, ce qui est compétitif sur Brawl Stars, c'est le mode 3v3. Du coup, on joue tout le temps en 3v3 en tournoi, et c'est la différence avec Clash Royale. Bon, maintenant, il y a du 2v2 aussi, mais l'avantage là, c'est que vraiment, pour moi, Clash Royale, c'était du 1v1, je jouais avec personne. Et là, je me retrouve avec des teammates. Du coup, il y a tout un aspect communication, un aspect visuel. Tu dois savoir ce qu'ils font à tout moment. Je trouve que c'est plus riche en termes de teamplay, de jeu d'équipe, et c'est peut-être plus intéressant à regarder aussi.
Et c'est peut-être aussi ce qui va te faire rester plus dans la longueur. Tu me disais que tu t'ennuyais un petit peu à la fin sur Clash Royale.
Ouais,
c'est peut-être que le côté vraiment tout seul, c'est moins sympa, quoi.
Et puis ouais, quand tu t'appelles avec des joueurs, maintenant c'est des amis, c'est des potes. Hein. Du coup, on s'appelle entre nous, on joue, on fait des parties, mais on parle aussi, et c'est clairement plus marrant.
Sympa. Et avant de jouer à ces jeux mobiles, etc., ou même pendant, est-ce que tu as joué à des jeux consoles, des jeux PC, d'autres jeux vidéo dans ta vie?
Moi, j'ai jamais été un gros gamer. Bah, quand j'étais plus petit, je jouais beaucoup à la PlayStation 3, donc maintenant, ça commence à dater. Mais ouais, j'ai jamais été un gros gamer, et puis j'avais pas mal joué à Clash Royale. Mais tu vois, sans plus, sans excès, et là, depuis que je suis sur Brawl Stars, ça prend des vraies proportions, quoi.
Ok, ouais, c'est vraiment juste du jeu. T'as découvert sur ton téléphone comme tout le monde, t'avais un petit téléphone et puis tu t'es dit tiens, je vais télécharger un jeu pour m'amuser. Et...
C'était pratique, j'avais du temps. Téléphone, c'est pas compliqué. Pas besoin de télé, pas besoin de quelque chose. J'ai commencé comme ça.
Accessible. Et du coup, comment t'en es arrivé à faire de la compétition?
Et bah, ça a été très progressif, parce que comme je te dis, je joue depuis le début de la bêta, mais la bêta, elle commence à dater. Donc, le jeu bêta, il a dû sortir il y a 3 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Et en officiel, ça doit faire 1 an qu'il est sorti, en mondial. Donc, pendant 2 ans, en fait, c'était bêta, du coup, c'était calme plat. Donc, en fait, niveau tournoi, il y avait rien, on jouait entre nous, on s'amusait en leader, et voilà. Et en fait, le fait de jouer pendant 2 ans, ça fait que je suis resté dans les top players, entre guillemets, donc j'ai atteint un très bon niveau. Et ce qui a fait que dès que les tournois sont sortis, en fait, j'étais déjà là, j'étais déjà prêt et j'ai pu tout de suite commencer à rentrer dans la scène compétitive, entre guillemets.
Ah, toi, tu les attendais, ces tournois-là? Tu t'es dit, tiens, ouais, faut vite qu'ils en fassent, j'ai envie de participer.
Dès les premiers mois de bêta, comme je te disais, avec les joueurs qui ont arrêté assez tôt, c'est des choses qu'on disait, mais imaginez dans 6 mois, imaginez dans 1 an, quand il y aura des tournois, ce sera incroyable. Et en fin de compte, quand j'ai commencé à faire des tournois, bah, j'ai repensé à toutes ces personnes avec qui j'avais discuté. Et je me disais, bah, c'est grave cool. Enfin, regardez les gars, on y est et tout. Après, c'est des personnes que je côtoie plus vraiment maintenant. Hein, c'est dommage, mais c'était vraiment un rêve au tout début du jeu.
Ah, tu devais avoir vraiment des étoiles dans les yeux de voir les tournois qui arrivaient.
C'était incroyable.
Et participer. Et en plus, t'étais bon, je suppose.
En plus, ouais, pendant la bêta, on a eu des hauts débats parce que, tu sais, une bêta, c'est toujours tendu. On sait pas si le jeu va sortir ou pas. Du coup, en fin de compte, quand tu sais qu'il sort, quand tu sais qu'il y a des tournois annoncés, plein de choses comme ça, c'est incroyable.
Et ton premier tournoi, justement, tu peux me le raconter? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as appréhendé? Qu'est-ce que t'as fait comme résultat à ce tournoi-là?
Mon premier tournoi offline, c'était cet été. C'était la DreamHack en Suède. Et c'était d'ailleurs un des premiers tournois du jeu, en fait, hein, parce que, comme je te dis, le jeu est assez récent au niveau e-sport. Donc, c'était très marrant. J'étais avec 2 joueurs français dans mon équipe. Et on représentait la structure 3D Max. Et ouais, on est arrivé là-bas. D'ailleurs, c'est un tournoi qu'on a gagné, hein, au passage.
Sympa.
Ouais, c'était impressionnant. En fait, ce qui m'a plus marqué, c'était même pas l'aspect du tournoi en lui-même, genre les matchs et l'intensité du tournoi. Mais c'était vraiment les gens, en fait. Parce que c'était la première fois, nous, qu'on se rencontrait vraiment entre nous.
Ah oui, les amis d'internet qui se rencontrent IRL, en plus dans un contexte de tournoi, ça devait être des beaux souvenirs.
C'est exactement ça. Tous les gens que j'ai vus là-bas, c'est des gens que j'avais déjà parlé avec eux en VOC, que ce soit en anglais, en français. Et c'est même pas des personnes que j'envisageais en tant que personne. En fait, c'était limite des interlocuteurs d'internet, quoi. C'était trop bizarre.
Des pseudos.
Ouais, voilà, c'était des noms, c'était des pseudos. Mais d'ailleurs, on s'appelait entre pseudos quand on se voyait. Enfin, c'était vraiment paradoxal parce que ça faisait 2 ans qu'on se connaissait à partir du jeu et à partir de Discord. Et le fait de se rencontrer, c'était vraiment intéressant. Genre, on a appris vraiment à se découvrir plutôt en tant que personne, plus qu'en tant que joueur.
Et ça a été quand, à ce moment-là, quand tu as fait ce tournoi-là à la DreamHack Suède, est-ce que tu avais déjà genre une structure, une vraie équipe, ou juste vous avez fait un collectif avec des potes avec qui vous étiez bon et vous êtes inscrit comme ça?
Ouais, bah on était 3 joueurs. En fait, tous les 3, on jouait depuis longtemps ensemble. Et à ce moment-là, on avait déjà, on était déjà sous contrat avec 3D Max comme structure. Et ouais, on a un manager qui nous a accompagnés. S'il écoute, salut, coucou. Et c'était marrant.
Je pense que ouais, il va sûrement écouter. Et comment vous avez contacté? C'est eux qui vous ont contacté en mode « Ah, on vous a vu sur le ladder, vous êtes fort, venez dans notre équipe » ou c'est plutôt vous qui cherchiez une équipe parce que vous saviez que vous étiez fort et que vous vouliez avoir des moyens pour pouvoir faire les tournois?
En réalité, un peu des deux. En fait, comme je te dis, on attendait depuis longtemps tout ce qui était e-sport, donc... Le fait d'avoir une équipe, bien sûr que ça nous intéressait, parce que comme ça, on aurait pu avoir une vraie organisation, une structure, quelqu'un qui nous supporte derrière. Et puis, c'est un contrat, donc ça veut dire rentrer d'argent aussi, donc c'est intéressant sur tous ces aspects-là. Mais les premières personnes qui sont venues nous démarcher, c'est les structures, c'est pas nous qui sont allés les voir. Et donc, en discutant avec les structures, on a pu pas se mettre d'accord sur des termes de contrat, et puis voilà, on a signé.
Et à ce moment-là, tu es rentré, ça y est, dans l'e-sport.
Voilà. Officiellement pro player, tu changes la description Twitter.
Et au niveau de tes parents, ça s'est passé comment? Comment tu l'avais? Est-ce qu'ils connaissaient un petit peu l'e-sport? Tu en avais parlé? Comment ça s'est fait quand tu leur as dit, bah papa, maman, j'ai un contrat de professionnel, on me le propose, je vais signer?
Alors ouais, non, au niveau e-sport, évidemment, ils y connaissaient rien du tout. Enfin, ils se doutaient qu'il y avait des choses, mais jamais ils ont regardé et jamais ils sont intéressés à ça. Mais ils n'ont pas du tout été fermés à la chose. Et pour eux, en gros, c'était pas compliqué. Genre, tant que je respectais ma part du contrat, entre guillemets, côté cours, il n'y avait pas de souci avec l'e-sport. Parce que pour eux, la priorité, c'est l'école. Je pense à mon avenir avant tout. Et je suis d'accord avec eux. Hein. Je pense que c'est très important. Donc j'ai été réglo de ce côté-là. Et mes cours, ça se passe bien. Donc l'e-sport, ça se passe bien.
Tu fais quoi comme étude, là?
Moi, je suis en école d'ingénieur, là.
Ah oui, quand même. Ah oui, en plus, ça demande du temps, quoi.
Je suis en quatrième année. Et... Ouais, du coup, ça me prend du temps, mais. et j'arrive à m'organiser, à concilier les deux, donc ça se passe bien.
Comment tu fais ça justement pour gérer le temps qui est demandé par les études et le temps qui est demandé par à la fois les compétitions et les entraînements?
Bah je sais pas trop comment dire, j'arrive à organiser les choses, on va dire. Je pense que je sais que à certains moments il y a des priorités pour certaines choses et à d'autres pour d'autres, donc quand j'ai du temps, je l'optimise et je fais tout pour que ça se passe bien.
Ouais, c'est en période de compétition, tu vas plus te focus sur ça, et quand t'as des examens, bah évidemment ça prend, je suppose, le pas sur tout, quoi.
Évidemment.
Tes parents, est-ce qu'ils regardent tes compétitions de temps en temps?
Eh bah ouais, ils regardent. À chaque fois que, qu'il y a un tournoi, ils me demandent le live sur Twitch ou sur YouTube et je leur envoie ça. Et après, moi, ça me fait marrer de savoir qu'ils regardent parce que je sais qu'ils connaissent rien au jeu, mais ça leur fait plaisir juste de me voir jouer.
Ouais, l'important, c'est que leur petit, leur fiston gagne à la fin et, ouais, et soit heureux, quoi.
C'est ça qui est marrant.
Et toi, est-ce que tu regardes des compétitions d'e-sport, d'autres jeux ou quoi?
Ouais, bah les trucs les plus importants, entre guillemets, souvent les finales, les mondiales, des choses comme ça. Après, comme je te dis, je ne suis pas un grand spécialiste des jeux, donc je ne suis peut-être pas assez fort pour voir la subtilité des moves dans la plupart des jeux. Mais je trouve ça assez intense quand même de regarder. Enfin, j'aime bien l'aspect compétitif et du coup, l'intensité des finales, ça me plaît.
Quel genre d'événement tu as regardé récemment, par exemple?
Qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, justement, tu parlais du premier épisode. J'avais regardé des finales. Je ne pourrais pas dire c'était quel tournoi, mais j'avais regardé des finales de CSGO. C'était il y a quelques mois déjà, hein, ça commence à dater. Mais c'était grave cool. Et puis je regardais pas beaucoup de CSGO avant, donc ça m'a fait un peu découvrir le jeu aussi, et je trouvais ça hyper intense. Et franchement, je sais que maintenant, si sur Twitch je tombe sur un live de CSGO, ça me gênerait pas de regarder maintenant.
Alors que t'as jamais joué au jeu, je suppose?
Ah, j'ai jamais ouvert le jeu, je sais même pas, je pourrais pas te dire si tu dois le télécharger ou si c'est sur Steam, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout.
C'est sur Steam, ouais, c'est ça. On parlait justement de cet e-sport PC, parce que globalement, l'e-sport mondial, c'est le plus gros e-sport, c'est vraiment sur PC, c'est bien hardcore sûr, gamer, ouais, avec un gros matos, etc. Qu'est-ce que toi, tu réponds aux gens qui disent que, bah, tout simplement, les compétitions sur mobile, c'est pas vraiment de l'e-sport, tu vois, c'est trop casu, c'est qu'ils te prennent un peu de haut. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
Bah, je vais pas dire que je les comprends, mais d'un certain point de vue, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est pas un truc qui est aussi vieux que le PC, évidemment. Donc les gens qui sont là depuis longtemps et qui sont sur PC, tu sais, ils ont un peu la réaction du boomer, genre les vieux de la vieille. Nous, on est là depuis longtemps. Mais j'ai envie de dire qu'en fin de compte, ça dépend même pas du support. Les gens, ils pourraient jouer sur un Nintendo Switch, que je m'en foutrais. C'est vraiment le... Je pense que l'e-sport, c'est pas ça. C'est plus... C'est pas du tout une question de support. C'est plus tout ce qu'il y a derrière, genre l'intensité du match, les mecs qui se dépassent à fond, qui ont un niveau de fou sur leur truc et qui arrivent à faire des choses incroyables. Après, peu importe comment ils le font, qu'ils soient avec un tel... une tablette, une manette, qui joue avec un clavier, qui joue, je m'en fous. Mais c'est ça pour moi, c'est vraiment l'essence de l'e-sport derrière.
Je pense que c'est un beau message que tu portes là, parce que moi je te rejoins. Moi je pense que c'est pareil, hein. Il faut vraiment regrouper tous ces univers. Et d'ailleurs, c'est ce que font un peu les championnats nationaux ESL, c'est que dans la même compétition, qui porte le même nom, etc., on regroupe un petit peu les deux mondes. Il y a à la fois l'e-sport mobile et à la fois l'e-sport hardcore PC à l'ancienne. Qu'est-ce que tu penses de cette fusion-là, toi, justement?
Bah, c'est intéressant, hein. Comme je te dis, pour moi l'e-sport c'est pas une question de support, donc je suis totalement pour ce genre d'initiative.
Et toi, dans ta saison, pour l'instant en ESN, comment ça se passe?
Pour l'instant on est pas mal, on est deuxième si je dis pas de conneries, et ouais, ça se passe très bien. Je pense qu'on a pas énormément de soucis à se faire. On a dû perdre un match, c'était je pense le match le plus serré des ESN, donc Non, je suis assez content des performances qu'on a pour l'instant.
Ok, donc pas trop de difficultés. Pour l'instant, vous êtes en mode tranquille la saison, ça a bien se passé.
Ouais.
C'est qui le favori pour vous de cette saison?
Ce serait prétentieux de dire qu'on est favori, mais non. L'équipe qui nous a battu, c'est une autre équipe classée mondiale. En fait, on joue dans les meilleures équipes d'Europe tous les deux. Et c'est l'équipe Code Magic. Et je pense que, ouais, si on compte notre équipe et leur équipe, on a toutes nos chances tous les deux.
Ok, donc c'est vraiment vous deux, les deux gros favoris des ESL.
Ouais, bien sûr, je dévalorise pas les autres équipes, hein, mais je pense qu'il y a un niveau un peu supérieur de ce côté-là.
Et d'ailleurs, ton équipe, à toi, c'est SK Gaming.
Ouais, on est chez SK.
Tu veux me raconter comment tu les as rejoints? Parce qu'en plus, c'est récent, ça date de début mars, c'est ça?
C'est super récent, ouais, ça doit faire 2 mois qu'on est chez eux. Et comment je les ai connus? Bah, en fait, à la base, moi, j'étais plus dans une équipe depuis quelques mois parce que j'avais eu des voyages à faire avec mes études, Ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant en Europe, j'avais des contacts, donc je savais que je pouvais rejoindre une équipe. Donc j'ai parlé à certains joueurs, dont les joueurs qui sont dans mon équipe actuellement. Et ces joueurs-là avaient déjà des contacts personnels, genre par Twitter, avec SK Gaming. Donc en fait, ça s'est fait de fil en aiguille. Moi, je les ai rejoints et tous ensemble, on a négocié avec SK. Et c'était, ouais, c'est quelque chose qui s'est passé, ça s'est passé naturellement. On n'a ni forcé avec SK, ni ils ont forcé avec nous.
Ok, vous aviez déjà des contacts et puis ça s'est fait comme ça, en mode il y a une place, etc.
Ouais, c'est ça.
On a monté l'équipe. T'as des affinités, toi, avec particulières avec les joueurs de ton équipe, notamment Twitzy Twig, qui est avec toi en équipe de France.
Ouais, bah on est deux joueurs français dans la même équipe. Donc bon, évidemment qu'on a des affinités, c'est plus facile niveau communication, c'est plus facile. Tu vois, on s'entend bien et puis comme tu dis, on est ensemble en équipe de France. Sur le jeu, on se connaît depuis depuis le début, hein, ça. Donc on est tout le temps ensemble sur Discord. Bah, pas plus tard que ce matin, j'étais avec lui en vocal. Non, c'est vraiment un pote sur le jeu. Et puis on joue à un niveau ultra compétitif tous les deux. Du coup, on sait ce qui marche, on sait ce qu'il faut faire entre nous. Non, on a une très bonne synergie. Enfin, vraiment, il y a rien à dire sur Twisted.
Et SK Gaming, le fait de rejoindre cette structure, qu'est-ce que ça vous a apporté au quotidien? Comment ils vous encadrent? Comment ça se passe spécifiquement avec eux?
C'est une vraie structure pour le coup SK, donc qui est assez ancienne sur l'e-sport. Donc ils ont déjà tout ce qu'il faut pour nous soutenir, donc en niveau communication, niveau logistique, tu vois, on a un manager, un coach, c'est quelque chose qui est carré, quoi. Ils nous aident vraiment à nous organiser, ça nous permet de nous développer et, tu vois, de nous focaliser sur le jeu. Donc c'est tout ce côté-là, quoi. On n'est pas comme certaines équipes débutantes qui sont obligées de tout faire par elles-mêmes, tout organiser par elles-mêmes. Devoir faire tout par toi-même, après tu perds du temps, tu peux pas te focaliser sur le jeu, et si tu perds du temps à faire d'autres choses et que t'es pas un joueur, c'est dommage, quoi. Tu t'entraînes moins, tu progresses moins, et après tu t'en veux si jamais t'as des défaites parce que t'es en train de faire autre chose. Enfin, c'est compliqué. L'avantage, c'est
c'est vraiment un luxe, c'est vraiment agréable, quoi.
Ouais, voilà, c'est clairement un luxe qu'on se permet.
Est-ce que tu penses que commencer pour un joueur aujourd'hui qui est bon à Brawl Stars, mais qui voudrait comme ça suivre un peu tes pas et devenir un joueur avec un très bon niveau à l'international, est-ce que tu penses que c'est un bon moyen de mettre un pied via les ECN dans le monde pro de Brawl Stars?
Je pense que c'est un bon moyen. C'est clairement un bon moyen, ouais, parce que c'est un tournoi qui est accessible. En fait, il y a assez d'équipes pour pouvoir jouer pas mal de matchs. Ça permet déjà de t'entraîner, de voir ce que le niveau compétitif vaut, mais ça te permet aussi de découvrir un peu tout l'ensemble de l'e-sport. C'est des trucs qui sont streamés, c'est des trucs qui sont cassés, c'est qu'il y a du monde qui regarde. Si déjà tu commences, tu vois, à avoir la pression pour ce genre de choses, pour les événements offline, après ça va être encore une autre pression, genre différente. Donc je pense que c'est un bon moyen de se forger un début d'expérience.
Et toi, tu parles de pression, et toi t'as senti une différence la première fois que t'as fait des compètes offline?
Par rapport à online, ouais. En fait, online, c'est pas que c'était un jeu, mais genre t'es chez toi. Moi, je joue dans mon lit personnellement, donc tu vois, genre c'est vraiment tranquille. L'avantage, tu vois, d'être sur mobile, c'est que tu peux jouer où tu veux.
Donc ça, c'est clair.
Et moi, je suis tranquille. Genre, je me mets deux oreillers pour me caler le dos et je fais mes parties tranquillement. Donc tu vois, quand t'es offline, c'est direct tout de suite, genre différent. Genre, t'es posé, t'es assis sur une chaise, t'as des gens devant toi, t'as le matériel qui est même pas à toi. Genre, c'est un truc qui est fourni par le tournoi. Tu dois t'adapter, genre t'es en micro, enfin c'est totalement différent pour le coup. Donc c'est même pas forcément une pression par rapport au jeu, mais tu vois, c'est tellement différent, c'est tellement nouveau que tu te dis qu'il faut pas que ça ait d'influence sur tes performances. Et du coup, ouais, c'est une certaine pression. Après, je pense qu'en tournoi, il y a des joueurs, et je pense que les meilleurs joueurs, c'est ceux qui supportent très bien cette pression sur la scène. J'ai des idées en tête, mais genre je connais plein de joueurs qui sont incroyablement bons pour supporter cette pression, et tu vois, ça se sent direct, genre, sans qu'ils sont posés dans leur jeu, qu'ils font la différence par eux-mêmes. Tu vois, ils n'ont pas le problème de devoir s'adapter au matériel, aux tablettes, je sais pas quoi. Ils sont vraiment bien dans leur jeu et ça fait tout de suite une différence.
Et ça fait quoi de jouer devant un public, de rencontrer des gens qui sont passionnés comme toi du jeu, qui vont te regarder avec les yeux, tu sais, les étoiles dans les yeux en se disant, putain, ce mec-là, il est quand même vachement fort, j'aimerais trop pouvoir jouer comme lui. C'est quoi d'avoir ce contact avec les fans?
En vrai, quand je joue sur scène, je ressens pas vraiment le public. Bah, les casques sont bien insonorisés, donc on n'entend pas tout. Et puis, je lève pas forcément trop la tête. Bon, en fait, je m'en rends pas compte, je suis tellement focalisé dans ma game que, tu vois, j'oublie vite ça. Par contre, quand on est en dehors des matchs, c'est toujours cool de parler avec des gens qui sont passionnés, qui kiffent le jeu aussi. Tu vois, genre, il y a des gens qui demandent des photos, qui demandent des trucs comme ça, des autographes sur des posters. Je trouve ça toujours super sympa. Enfin, c'est grave cool de voir qu'en fait, c'est... C'est parce que si jamais il n'y avait pas ça, tu pourrais dire que c'est un truc... On est cantonné à nous, genre... Ouais, on est une vingtaine de joueurs e-sport à ce tournoi, bah, il n'y a que nous, en fait. Et personne ne nous regarde, personne ne nous supporte et tout, mais c'est pas vrai. Quand tu vois le nombre de personnes qu'il y a sur les rediffs ou sur les streams ou genre juste qui viennent voir les events, c'est super marrant, super cool.
Ah, mais c'est clair, les audiences sont folles. Quand tu regardes les rediffs, etc., tu vois, ça a des millions de vues, etc., je pense que tu peux te dire, ah là, le move que j'ai fait qui a été bien et il a été vu par pas mal de monde, j'en suis fier.
Exactement.
Et dans la communication, etc., en équipe, vu que bah, toi, tu joues notamment avec des gens à l'international, ça fait quoi de parler anglais? Est-ce que, en gros, la communication en français est différente de la communication en anglais, vu que c'est pas ta langue maternelle?
Ouais, bah, comme je te disais, j'avais une équipe 100% française avant. Du coup, je communiquais qu'en français. Et depuis que je suis chez SK Gaming, j'ai deux joueurs étrangers avec moi. Donc, un danois, un autrichien, et puis Twisty qui est français aussi. Et du coup, bah, évidemment, on parle tous en anglais dans l'équipe. Je commence à avoir un peu de recul, vu que ça fait 2 mois que je suis dans l'équipe, et je pense que, justement, ta question est pas mal, parce que, même si j'ai pas de problème avec l'anglais en particulier, mais je pense que le fait de communiquer dans sa langue maternelle, on est quand même peut-être plus précis et plus rapide dans l'école. Je pense que ça a une vraie impact sur le jeu. Surtout à un niveau où tu peux pas te permettre de rater une demi-seconde, parce que, tu vois, si tu bégayes ou si tu trouves pas tes mots ou des choses comme ça, bah, c'est mort direct, parce que le mec, il aura fait son move en face et... T'auras perdu la partie déjà.
Bah ouais, surtout que tu le disais, alors déjà que c'est plutôt vrai dans globalement tous les e-sports quand les parties font 30-40 minutes, mais alors dans les vôtres qui font des parties très très intenses de 3-4 minutes, je pense qu'une demi-seconde, ça a beaucoup d'importance.
Ça se retourne très vite une partie, ouais. C'est ce que je te dis, ouais. Si jamais pendant une seconde, j'en sais rien, tu dis pas qu'il y a un mec dans un mur, derrière un mur ou qu'il est en super ou un truc comme ça, c'est foutu. Derrière, tu sais très bien que le mec il va faire son move en face. Toi, t'auras pas dit ton call, le mec avec toi, il va se faire manger. Non, ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que ouais, les pertes de temps sont vraiment à éviter. Et la communication dans sa langue maternelle, c'est, je pense, le plus rapide.
C'est quoi les forces qu'il faut avoir, à ton avis, les trucs les plus importants sur Brawl Stars en termes de gameplay?
Le jeu, il est quand même basé sur une bonne part de mécanique. Hein. Tu peux pas te permettre de trop rater tes choix. En fait, les joueurs pro players et les anciens joueurs du jeu, ils ont vu tellement de méta et tellement de choses qu'en fait, on a une sorte de bibliothèque de situations dans nos têtes. Et on sait, en fait, sans même réfléchir, je sais la plupart du temps comment tout va se passer. Des fois, tu peux prédire genre 15 secondes d'affilée parce que c'est des situations que tu connais tellement par cœur, t'as déjà vu 10 000 fois que tu sais comment ça se passe. Donc en fait, je pense qu'il y a une grande part du jeu qui est basée sur l'expérience. En plus de tout ce côté mécanique, il faut vraiment jouer beaucoup. Pratiquer énormément et en fait, le fait de voir des actions et de les reproduire, ça va te permettre de te forger, comme je te dis, une bibliothèque un peu de. Bibliothèque, je sais pas, de moves, de choses comme ça.
Et des situations, ouais.
Ouais, et ça va te. En fait, c'est ça qui va te faire progresser vraiment.
Et toi, ta plus grande force, c'est plutôt quoi, le côté mécanique ou le côté plutôt connaissance du jeu?
Ouais, moi je suis un vieux sur le jeu, hein, donc niveau connaissance, je pense pas être à plaindre. Après, pour être dans les meilleurs, tu peux pas te permettre d'être nul niveau mécanique. Donc,
un peu des deux.
Je te dirais que t'es obligé de faire tout. Hein. D'avoir une bonne vision aussi, d'être à l'aise quand tu calls, d'être synthétique. Parce que si tu parles pour rien dire, ça sert à rien aussi. Faut vraiment être complet pour jouer à un très bon niveau. Bon, en tout cas, si t'as une faiblesse, les gens vont pas hésiter à l'exploiter. Quoi.
Et justement, tu parles de faire des calls. Dans ton équipe, c'est qui fait le call? Est-ce qu'il y a un shot caller qui est désigné à chaque partie? Est-ce que c'est un shot caller de manière globale ou est-ce que tout le monde y va un petit peu de ses informations et on voit comment ça se passe?
C'est intéressant que tu dises ça. Je suppose que tu dis ça parce que dans d'autres jeux, il doit peut-être y avoir un seul caller partie.
Mais... Ouais. Ouais. Il y a pas mal de jeux où justement ils essaient de s'organiser pour qu'on suive la voix d'une personne, ce qui évite d'avoir des communications un peu parasites et au moins on sait que on suit les ordres et puis après, si on n'était pas d'accord ou si c'était pas machin, on en parle après la game. Est-ce qu'il y a déjà ce genre de système sur Brawl Stars ou pas encore?
C'est intéressant parce que c'est quelque chose. Vu que je te dis que je suis pas suffisamment e-sport à côté, je le savais pas. Hein, mais c'est quelque chose à quoi j'ai pensé il y a pas si longtemps que ça dans le jeu. Et je pense que ça marcherait pas pour notre jeu. En tout cas, en fait.
Pourquoi?
On est très focus. Quand on joue, en fait, on est très focus sur notre personne. Et si tu te permets, en fait, de regarder tout ce qui se passe dans la map pour pouvoir le call à tes partenaires, je pense que ça te ferait trop de mal en fait dans ton jeu personnel et tu vois si tu perds ta line après t'es mort, tu peux pas te permettre de mourir non plus. Donc je pense que c'est... Enfin, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est trois joueurs et que dès que quelqu'un a une information, elle est balancée. En fait, si tu vas dans un Vogue pendant qu'on fait un tournoi, tu verras que c'est des informations qui se débitent tout le temps. Et on a appris en fait à être en mode genre on capte tout ce qu'on entend et tu le réutilises si t'en as besoin. Et si t'en as pas besoin, c'est filtré, genre tu l'oublies instantanément. En fait, on est des robots là-dessus et dès qu'on a un truc, on le dit. C'est pour ça que je dis qu'il faut être synthétique parce que en fait, il y a tellement d'informations que si tu commences à raconter ta vie ou je sais pas quoi, bah, y a plein de trucs qui vont passer et en fait, tous tes potes, ils auront pas les infos qu'il fallait.
C'est vachement intéressant ce que tu me racontes. Et d'ailleurs, en fait, c'est aussi ça pour ça la question sur les langues tout à l'heure. C'est qu'il y a pas mal de jeux où justement, quand les gens jouent avec que des gens de leur nationalité, donc ils parlent la même langue, ils ont tendance, tu sais, vu que c'est leur langue naturelle, à mettre trop de mots, tu vois, à dire des choses qui, en fait, sont pas forcément essentielles. Et ils expliquent certains, encore une fois, ça dépend des gens, des équipes, etc., et même des jeux, mais il y a certains qui expliquent que quand ils parlent en anglais, vu que, bah, forcément, c'est pas leur langue natale, même s'ils se débrouillent, bah, ils ont tendance à, tu vois, plus aller à l'essentiel et à donner juste les informations essentielles simplement et ça évite de dévier sur autre chose.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est ce que je te disais. Genre, si t'arrives à aller vers l'essentiel, je pense que c'est une super bonne chose. Le fait est que quand t'arrives à comprendre, je pense que si t'es suffisamment à l'aise en anglais pour pouvoir faire des calls complets, je pense que tu peux aussi les faire courts. Hein. C'est juste une question d'adaptation après. Par rapport à ce qu'ils ont fait.
Qu'est-ce que tu penses de la scène Brawl Stars dans sa globalité? Genre tous les tournois qu'il y a, l'organisation, tu sais, le système mensuel, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
C'est vraiment la première année où ça décolle vraiment, hein, étant donné que le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et cette année, ouais, c'est organisé tous les mois sous forme de tournois mensuels. C'est vraiment super, super cool. Parce que ça permet de conserver, tu vois, une scène tout au long de l'année. C'est pas des tournois décousus, genre tous les trois mois. C'est vraiment, tu sais que tous les mois, t'auras un qualifier, enfin un truc online, un qualifier par région, genre Europe, Asie et tout, et un tournoi global. Bon, là, c'est un peu biaisé avec toutes ces histoires de virus, mais c'est vraiment bien parce que ça nous donne un rythme, en fait. On est vraiment, tu vois, dans le truc. Ce que j'écoutais de d'Apex sur la première interview, c'est qu'il disait que lui, il avait... Je sais pas combien d'événements d'une année, genre une trentaine ou quelque chose comme ça, c'est incroyable pour moi. Et là, tu vois, on en a beaucoup moins, mais c'est super cool d'avoir quand même cette histoire de rythme et de savoir qu'en fait, il y aura quand même un événement bientôt, que tu vas quand même pouvoir aller voir des gens, faire un tournoi offline et tout, c'est grave bien.
Ouais, et puis voyager aussi à l'international, vous, c'est surtout Katowice en Pologne.
Bah, pour ces championnats, ouais, tous les mois, c'est Katowice en Pologne. Et l'année dernière, c'était la finale des Worlds 2019, c'était en Corée. Donc, c'était à Busan. Sud de la Corée, donc c'était pas mal.
Alors, c'est comment la Corée?
Bah, c'est plutôt cool. Moi, comme je t'ai dit, j'étais en Asie pour mes cours l'année dernière, donc pendant 6 mois. Donc, en gros, j'étais déjà pas loin, donc c'était pas mal. J'ai pu aller en Corée, genre, un petit peu avant. Donc, j'ai fait un petit tour.
Ah ouais, en fait, t'étais déjà là-bas, donc t'es même pas repassé par la France, t'as
ouais,
fait directement...
Bah ouais, bah, en gros...
Ah, sympa.
En gros, les 6 derniers mois, quand j'étais en échange à l'étranger, j'étais plus en Europe, du coup, j'ai pas pu faire mes qualifications en Europe. Et bah, ce qui a fait que j'ai dû trouver des partenaires en Asie, donc je me suis trouvé une nouvelle team en Asie avec 2 joueurs qui étaient super cool. Et en fait, on a passé toutes les étapes de qualification là-bas et on s'est retrouvé au World, du coup, avec mes potes qui étaient en Europe, qui s'étaient qualifiés en Europe. Et moi, je suis allé là-bas avec mon équipe asiatique. Et du coup, ouais, j'étais déjà sur place.
Ok, c'est marrant. Je savais pas que t'étais déjà en Asie pour le coup. Bah, c'est bien. Ça te fait quand même un pays de plus. Hein, si t'avais pas encore fait la Corée.
Bah, j'avais pas encore fait la Corée. C'était vraiment cool.
Bah, surtout qu'en plus, c'est la terre de l'e-sport, hein, pour le coup. La
ouais,
Corée.
Les gens étaient vraiment passionnés là-bas. L'événement Brawl Stars, il était dans une sorte d'événement, tu vois, comme la PGW. Genre, c'est un grand salon où il y avait plein de trucs pour plein de jeux. Et du coup, tous les gens là-bas, c'était des mecs passionnés. Genre, en Corée, je sais pas si c'est plus qu'en France, mais c'était vraiment incroyable. Genre, ils avaient tous des cosplays, genre dès qu'il y avait un nouveau truc, genre tu voyais des pépites dans leurs yeux, genre c'était impressionnant.
Ouais, je pense que c'est une expérience à vivre en tant que joueur d'e-sport de d'aller en Corée, parce que clairement c'est là-bas que tout se passe, quoi. C'est là-bas que tout est né là-bas, en fait. Tout est né là-bas. C'est pour ça que ça s'appelle le berceau de l'e-sport. Hein. Il y a pas de blague là-dedans. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi, à la scène Brawl Stars? Imagine, demain, tu deviens PDG de Supercell et tu peux choisir ce que vous faites en termes de tournoi, en termes d'organisation, en termes d'événements, de ce que tu veux sur la scène Brawl Stars pour les compétitions. Qu'est-ce que tu fais?
J'ai pas réfléchi avant, mais là, le premier truc qui me passe par la tête, c'est ce qui se passe, comme je te disais, c'est que tous les mois, on a des systèmes de qualifiers et tout. Mais en fin de compte, tous les mois, on est obligé de repartir à zéro par rapport à ça. Donc en fait, en Europe, c'est la région où il y a le plus d'équipes. Donc quand on arrive, bah d'ailleurs c'est ce week-end, demain on va encore avoir ça. Et le samedi, on arrive et il y a des milliers de teams qui vont s'affronter. Donc en gros, là on doit être, j'ai pas regardé les chiffres, mais le mois dernier on était plus de 4000 teams. Et en fait c'est incroyablement long en fait, on se rend pas compte, mais on peut pas être focalisé sur une journée entière en jouant. Et si jamais je pouvais changer quelque chose, je tâcherais, je sais pas, peut-être de faire un système avec des, je sais pas, des têtes de série en mode qui rentrent dans le bracket un peu plus tard. Parce que c'est pas qu'on fait des games dans le vent, mais vu qu'on est dans les meilleures équipes classées européennes pour l'instant, on fait 99% des games, c'est des games qu'on expédie vite, mais qu'on est quand même obligé de jouer, tu vois, de se mettre focus, et du coup, ça nous fait perdre peut-être un peu de concentration pour les matchs importants qui sont après.
Ouais, ça vous fatigue un peu, parce que c'est des équipes, bon, voilà, qu'il faut respecter, donc faut jouer contre eux, etc., mais c'est pas des équipes de votre niveau, quoi.
Évidemment, on est toujours dans le respect, hein. Jamais on va s'amuser à les humilier ou je sais pas quoi, mais vu que, d'ailleurs, on se permettrait pas, hein. Si jamais on commence à faire des choses comme ça et qu'on perd, imagine notre visage après.
Ouais, au niveau de la réputation, après, c'est pas top, quoi.
Mais non, même genre, ouais, en tant qu'humain, enfin, je suis pas, genre, je réagis pas comme ça dans le jeu, genre. Et sinon, ouais, c'est ça, c'est que, bah, on les respecte beaucoup, mais vu qu'on, sans prétention, c'est pas des équipes contre qui on a l'habitude de perdre, bah, on perd juste beaucoup de temps à faire ça tous les mois, et alors qu'on pourrait se concentrer sur vraiment les matchs importants qu'on a après.
Et tu sais qu'il y a un truc qu'il y a sur Brawl Stars et que d'autres jeux envient, notamment League of Legends ou des trucs comme ça, c'est des tournois en fait avec des pays qui s'affrontent. On en parlait en introduction, t'es capitaine de l'équipe de France. Tu peux me parler un petit peu de tout ça, de comment en fait on devient capitaine de l'équipe de France, quels sont les tournois auxquels tu participes avec l'équipe de France?
Ouais, bah l'histoire du début de ça, c'est marrant, hein, ça n'a rien du tout d'officiel. En fait, il y a pendant la bêta, donc ça commence à dater. J'étais déjà coté, genre en gros à l'international, j'étais un peu reconnu comme le joueur français. Et il y a des compétitions qui commençaient à s'organiser autour des pays. Et du coup, les organisateurs du tournoi sont venus me voir à moi en tant que représentant un peu de la France et m'ont dit « Ouais, salut Achille, est-ce que tu montrais pas une équipe ?» Et du coup, bah, vas-y, ni une ni deux, vu que moi j'adore tout ce qui est compétition, bah, français et tout, enfin, tu représentes ton pays, genre t'es fier de ça. Et du coup, on a monté une équipe de France, genre une première équipe de France avec ça. Donc on a commencé, on a fait des matchs, tu vois, genre on n'a rien officialisé, hein, mais on faisait des matchs amicaux, des tournois, des premières compètes. Et puis de fil en aiguille, bah c'est quelque chose qui s'est un peu instauré genre dans la commu. Enfin, si tu demandes à un joueur maintenant qui s'y connaît un petit peu, il dira ouais, équipe de France, il connaît. Alors qu'à la base, il y a rien du tout de, tu vois, il y a pas de structure derrière, il y a pas d'organisation plus que ça, c'est vraiment des,
ah, c'est vraiment les joueurs entre vous avez dit bah il nous faut une équipe pour représenter la France, quoi.
C'est ça, c'est vraiment genre c'est une initiative. Et puis du coup, je suis resté capitaine, genre j'organise entre guillemets tout, enfin je suis derrière le truc, et moi ça me fait plaisir de continuer à faire ça, donc banco, hein.
C'est chouette. Mais du coup, tu t'organises des matchs contre d'autres équipes qui ont la même nationalité, c'est ça?
Ouais, bah quand on n'a pas forcément, c'est pas quelque chose qui est prioritaire sur le reste, hein. Donc on a tous, la plupart des joueurs qui sont en équipe de France, ils ont tous déjà leur équipe à côté où ils sont sous contrat, donc on connaît nos priorités. Genre si jamais on a un truc à faire avec notre équipe sous contrat, on est obligé. Mais ça nous fait tous plaisir. On fait ça bénévolement, on n'a pas de salaire pour ça. Hein. Donc on est tous bénévoles pour jouer en équipe de France parce que ça nous fait plaisir. Et puis entre les pays, tu vois, il y a une rivalité. Genre quand, tu vois, les joueurs espagnols, ils jouent contre nous, les joueurs allemands, ils jouent contre nous, bah, tu vois, on sait que même s'ils sont avec nous dans notre équipe, dans notre club, bah, quand on est contre eux en équipe nationale, c'est pas la même chose, hein.
Ah, c'est la fierté, quoi.
Ah, bah, clairement. On est là pour faire gagner la France avant tout.
Cocorico. C'est quoi tes objectifs de carrière, tes rêves un petit peu?
Je sais pas, déjà à court terme cette année, bah il y a les championnats du monde, hein, il y a les Worlds qui vont arriver. S'ils sont à la même date que l'année dernière, ça va être en novembre. S'il y a pas de problème, hein, si on est déconfiné, tout ce qui va se passer. Et ça serait déjà un premier objectif. Après, à long terme, bah c'est faire la plus belle carrière possible, hein, et m'épanouir dans ce que je fais. Tant que j'aime le jeu et tant que je suis bien dans l'e-sport, moi je suis prêt à continuer.
Et tu penses que ça peut continuer longtemps, 5 ans, 10 ans, peut-être plus?
Franchement,
t'aimerais?
Franchement, j'en ai aucune idée. Je savais pas combien de temps ça pouvait durer pour un jeu. Et puis justement, ouais, j'ai écouté la première interview. j'ai appris qu'Apex, ça fait des lustres qu'il est là, ça m'a choqué. Du coup, je sais pas, pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Tant que le jeu marche, après tout, y a pas de raison que je m'en aille.
Bah, je te le souhaite. Je te propose qu'on se quitte avec un petit jeu qui s'appelle le Clutch. Je vais te donner deux propositions, et en gros, tu vas me donner du tac au tac, la première proposition, celle que tu choisis parmi les deux. Ça te va?
D'accord, ouais, pas de souci.
Est-ce que tu préfères gagner en club ou gagner avec l'équipe de France?
Non, je pense que je mets le club en priorité, de toute façon, dans tout ce que je fais. Et puis, l'équipe de France, c'est beau, parce que tu vois, c'est le pays, c'est la valeur et tout, mais le vrai e-sport, la vraie compétition, elle se fait avec le club.
Est-ce que tu préfères les cours ou l'e-sport?
Les cours, je les fais. J'ai choisi ce que je voulais faire. Hein. Je suis pas là par défaut, mais c'est vraiment pour le coup l'e-sport, c'est vraiment ma passion là en ce moment. Donc je suis 100% e-sport là.
100% e-sport. Est-ce que justement dans l'e-sport, tu préfères Razzia de Gem ou Brawl Ball?
Non, Brawl Ball.
Ah ouais? Pourquoi?
Brawl Ball, si jamais tu parles à d'autres personnes qui jouent au jeu, c'est Brawl Ball avant tout. C'est le mode préféré, je pense, des joueurs au trophée. Bah, c'est sûrement le plus marrant, en fait. Hein. Brawl Ball, comme son nom l'indique, c'est avec un ballon. Et du coup, t'as toute la maîtrise de la map, le contrôle de la partie, mais t'as aussi tout l'aspect marquer un but, tirer avec la balle et tout. Donc, ça rajoute un peu de la difficulté au truc, c'est vraiment cool.
Ok, le mode donc le plus sympathique. Est-ce que tu préfères jouer dans une équipe uniquement française ou dans une équipe internationale?
Bah, c'est une bonne question que je me pose aussi, parce que j'ai pu expérimenter les deux. Après, là comme ça, du tac au tac, je te dirais que niveau communication, c'est sûrement mieux le français. Hein. Mais,
ok, pour l'instant, tu vas sur les français alors.
Mais ouais, comme je suis dans une équipe internationale, je vais pas cracher dessus non plus. Hein, mais...
J'imagine. Et enfin, dans la question la plus fondamentale, évidemment, est-ce que tu préfères jouer sur une grande scène ou dans ton canapé?
Non, les scènes, c'est beaucoup trop bien. Les événements offline, c'est vraiment incroyable. Franchement, à tous ceux qui font pas d'e-sport, qui se demandent comment ça fait, c'est vraiment incroyable. C'est une des meilleures sensations. Enfin, je sais pas comment vous ressentez la pression, mais moi, c'est vraiment de la pression positive et je sais que ça me porte, genre, et du coup, le fait d'en avoir comme ça en haute dose, c'est incroyable.
Bah, génial. Je pense que c'est une réponse de passionné et d'e-sportif aguerri. La compétition, les sensations et le canapé, c'est bien pour s'entraîner et pour jouer entre potes, hein, je suppose.
Ouais, non, mais c'est tranquille, le canapé. Hein. Là, mon lit, tu vois, il m'attend. Il a la tablette dessus, il n'y a pas de souci. Mais si jamais on me dit que j'ai un événement offline à faire demain, que je dois prendre l'avion dans la soirée, je décolle, hein, je pars tout de suite.
Ouais. Bon, j'espère que ça reviendra très vite hein, avec la crise qui est actuellement, mais c'est vrai que c'est sûrement ce qui vous lie tous, vous les joueurs professionnels de tous les jeux qui existent au monde, c'est ce côté compétition et ce côté déplacement, de se rencontrer et se dépasser sur scène devant un public et pour un trophée.
Clairement.
Mais écoute, Achille, merci beaucoup, c'était une super découverte. J'espère que les gens ont adoré, comme moi, discuter avec toi, découvrir un petit peu un monde un peu différent de l'e-sport qu'on connaît et qu'on côtoie au quotidien, des jeux PC, etc. J'espère que tu as apprécié également faire ce podcast avec moi. Et puis, bah voilà, moi je te souhaite le meilleur pour la suite et je te souhaite de remporter les ECN, voilà, et de t'épanouir dans ta carrière.
Et bah merci, ouais, j'ai beaucoup apprécié, c'était grave sympa. Et bah merci beaucoup pour les ECN. Et puis j'espère qu'on pourra en discuter un jour. Hein, et puis on sait pas.
Avec grand plaisir. Allez, salut.
Salut.
Voilà, si ce deuxième épisode de Pré-Shot vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes. Et vous pouvez également nous laisser un commentaire pour nous dire qui vous voudriez entendre dans le prochain épisode. Vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le Twitter ESL France ainsi que sur le site eslcn.fr et également suivre les compétitions sur les chaînes Twitch ESL France. C'était Balter pour vous présenter Pré-Shot. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt.